Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne manquera pas de vous rappeler que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore et musicale les petites images qui bougent depuis le 19e siècle. Et oui, c'est pas comme moi, je le précise. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer, il est bien étonnant que nous le fassions seulement maintenant, la carrière de Brigitte Bardot alias Bébé, certainement l'une des actrices emblématiques du cinéma français des années 50-60, plutôt 60-70 d'ailleurs, avec évidemment ensuite quelques épisodes moins glorieux, voire carrément polémiques, mais on ne m'en voudra pas, j'espère, de présenter l'actrice et de laisser la militante de cause parfois douteuse ailleurs que dans ce 24 notes secondes. Brigitte Bardot, alias Brigitte Anne-Marie Bardot, est née, on peut le dire maintenant, le 28 septembre 1934, à Paris. Elle aura une sœur aussi qui s'appelle Mijanou. J'essaie de retrouver son âge. Le 5 mai 1938, pour tout vous dire. Marie-Jeanne, alias Mijanou, qui a eu son petit quart d'heure de célébrité aussi dans les années 50-60. Elle est née à Paris, dans le quartier de Passy, c'est dire donc que ses parents sont, comment dire, des bourgeois, ce qui, de fait, permet à la dite Brigitte Bardot de recevoir une éducation, dit ma petite fiche, stricte, et de pratiquer la danse classique, en rêvant, évidemment, comme toutes les jeunes filles parisiennes pratiquant la danse classique, d'entrer à l'opéra. Le destin en décidera, bien évidemment, autrement, puisque quelque part à l'aube de ses 14 ou 15 ans, en 1949, elle est engagée par Hélène Lazareff, la femme du célèbre Pierre Lazareff, grand journaliste des années 50-60, pour présenter la mode junior de Elle et du Jardin des Modes. Nul doute qu'elle devait y faire, je dirais, fortune, en tout cas la fortune des photographes, et bien évidemment, comme souvent dans ce cas-là, et souvent à cette époque-là, ça reste encore vrai d'ailleurs, eh bien, en tant que jeune mannequin, elle est remarquée par le réalisateur Marc Allégret, déjà connu, qui souhaite qu'elle devienne actrice. Ce à quoi ses parents, bourgeois, je le rappelle, s'opposent un peu, mais le destin décide quand même qu'elle rencontre ce jour-là, allons-y, l'assistant de Marc Allégret, un dénommé Roger Vadim, qui va tenir une grande place dans sa vie, et c'est peu dire, et dont elle tombe, dit ma petite fiche, qui ne ment jamais, je vous le rappelle, ma petite fiche, dont elle tombe immédiatement amoureux. Mais si vous avez bien calculé, ces jeunes gens ont 14-15 ans à une époque où la majorité est à 21. Donc là encore, les parents de Brigitte, des bourgeois, je vous le rappelle, s'opposent à son mariage et bien évidemment à toute autre chose qui ne se font jamais avant le mariage. En tout cas, dans ces années-là, bien entendu, je plaisante. Allez, on va passer à un petit extrait musical quand même, puisque la carrière de Brigitte débute en 1952 dans un film de Jean Boyer avec Bourville et Michel Morgan, si je me souviens bien, Le Trou Normand, qui est resté impérissablement méconnu. On la vit ensuite en 1954 dans un film italien, Haine, Amour et Trahison. On la vit aussi l'année d'avant dans un film d'Anatole Litvak aux côtés de Kirk Douglas, Un acte d'amour. Et puis en 1955, pour un petit rôle mais dans un grand film, comme elle le soulignait, on la vit dans Les Grandes Manœuvres de René Clair, une musique de Georges Vamparis, encore un des géants de la musique de film à la française. Géant, donc, dont je vous propose d'écouter un petit extrait, Les Grandes Manœuvres René Clair, 1955, dans 24 notes secondes. Thank you. Un extrait de la bande originale signée Georges Vamparis, des grandes manœuvres, un film de René Clair tourné en 1955. Un grand exemple de cette qualité française qui sera bientôt vilipendée par les tenants de la nouvelle vague. C'est un peu injuste car les grandes manœuvres qui se passent quelque part juste avant la guerre de 14 est une étourdissante comédie qui réunissait dans les rôles principaux, je ne l'ai même pas précisé avant d'écouter ce morceau, Michel Morgan et Gérard Philippe, excusez du peu, Gérard Philippe qui retrouvait René Clair pour la troisième fois après La Beauté du Diable en 1950 et Les Délicieuses Belles de Nuit en 1952, à une époque où il était déjà quasiment au sommet de sa carrière entre ses prestations théâtrales au TNP et ses rôles au cinéma. Donc on retrouvait dans ce film Brigitte Bardot, notre vedette de ce jour, mais avec plein d'autres seconds rôles à ses côtés. Yves Robert, Jacques François, Pierre Dux, Jean de Sailly, Magali Noël, Jacques Fabry, Simone Valère, bref, le banc et l'arrière-banc du cinéma français pour un film extrêmement brillant, mais qui ne préparait guère notre bébé national à ce qui allait l'attendre très peu de temps après. Dès 1960, entre-temps, entre les grandes manœuvres et le film que nous allons maintenant évoquer musicalement, on la vit dans deux films de Marc Allégret, déjà évoqués, Future Vedette, Prescience en 1955 toujours donc, et En effeuillant la Marguerite en 1956, on la vit aussi, ou plutôt on ne la vit pas car je ne l'ai pas vue, dans Les Week-ends de Néron. On peut craindre le pire de Steno à une époque où les coproductions franco-italiennes étaient légion. On la vit dans le Hélène de Troie de Robert Wise, et oui, dans le rôle d'Hélène. Et puis surtout, c'est cette année-là que Roger Vadim, son mari, puisqu'il s'était marié le 21 décembre 1952 pour les 18 ans de la susdite, eh bien, son mari lui donne le rôle principal d'un film que personne n'avait voulu financer, un film écrit avec Raoul Lévy et dans les principaux rôles aux côtés de Brigitte Bardot, on trouvait Kurt Jürgens, Jean-Louis Trintignant, un film qui allait non seulement lancer la carrière de Brigitte Bardot, mais qui d'une certaine manière, il faut bien le reconnaître, allait provoquer une sorte de révolution féminine et sexuelle. Mais de quel film parles-tu exactement, cher chroniqueur de 24 notes secondes ? Eh bien, je parle des dieux créés à la femme. De quoi voulez-vous que je parle d'autre ? Un film donc de Roger Vadim avec un scénario de Roger Vadim et de Raoul Lévy, qui raconte l'histoire de Juliette, orpheline de 18 ans, d'une beauté sensuelle et involontairement, tu parles, provocante quelque part à Saint-Tropez, et qui évidemment sème, sinon la mort et la désolation autour d'elle, du moins excite fort ces messieurs, il faut bien le dire, au premier rang desquels le vieux beau à l'époque, Kurt Jürgens, et le jeune beau Jean-Louis Trintignant, avec lequel d'ailleurs Madame Vadim aura quelques aventures, dirons-nous. Un film qui, dans un premier temps, ne rencontre pas un grand succès en France, mais ça arrive parfois qu'il en rencontre un phénoménal aux États-Unis, And God Created Woman in English, ce qui fait que, revenu en France, eh bien, le film rencontre cette fois un succès énorme et projette celle qui est maintenant bébé au premier rang, au tout premier rang, non seulement du cinéma français, mais, osons-le, d'une sorte de révolution sociale et sexuelle. Et il y avait même de la musique dedans, une musique signée de Paul Misraki, encore un grand, dont je vous propose d'écouter un petit extrait dans 24 notes secondes.
Thank you.
À la ferme, si vous imaginez Brigitte Bardot se trémousser dans la splendeur de ses 25 ans, dans une robe extrêmement moulante, vous vilain garçon, eh bien vous ne vous trompez pas, c'est sans doute ce qu'elle faisait dans cet extrait de la bande originale de « Et Dieu créa la femme », un film tourné quelque part en 1960, mes petites fiches sont contradictoires, mais je crois que c'est ça. Un film donc qui mettait en vedette Brigitte Bardot en 1956, pourquoi je dis 60? En 1956, donc la coquine n'avait que 21 ans, l'âge de la majorité à l'époque, un film qui la lança, qui la propulsa, ainsi que Roger Vadim, il faut bien le reconnaître, qui n'est pas pour rien son Pygmalion, comme on peut parfois le dire, d'un acteur et d'un réalisateur, et il n'y a rien de machiste à ça, un Pygmalion sans la présence duquel eh bien, la carrière de Brigitte Bardot n'aurait certes pas été ce qu'elle a fini par être. Alors, le problème d'un succès comme celui-là, c'est que quand on devient unique, icône, eh bien après, il est bien difficile, j'allais dire, de rebondir. Le mot serait peut-être mal choisi, de faire autre chose, tout au moins de s'améliorer. Et on ne peut pas vraiment dire, à part quelques films qu'on pourra en accepter, que Brigitte Bardot ait réussi à se relever, 1956, je le maintiens, à se relever donc de ce triomphe absolu que fut et Dieu créa la femme, puisque les films qu'elle tourna ensuite, ma foi, furent pour certains d'entre eux des exploitations plus ou moins éhontées du personnage qu'elle interprétait dans ce film. Ce fut le cas notamment des Bijoutiers du clair de lune, du même Roger Vadim, tourné en 1958. Et ce fut aussi le cas de quelques autres que je n'évoquerai pas. On la vit aussi dans des films un peu plus sérieux ou un peu plus drôles, selon les cas. Ainsi, dès 1957, une petite comédie avec Henri Vidal et Charles Boyer, une Parisienne un peu méconnue, un film de Michel Boiron, mais plutôt bienvenue. En 1958, elle fut opposée au monstre Jean Gabin dans En cas de malheur, auquel elle montrait dans un plan fameux ses cuisses et plus si affinités. Un film de Claude Autant-Lara où, il faut bien le reconnaître, Brigitte Bardot montrait ses limites en tant qu'actrice face à un monstre comme Jean Gabin. Mais ma foi, elle ne se débrouillait pas si mal que ça. On la vit dans un film indigne de Julien Duvivier en 1959, La femme et le pantin, et dans un autre beaucoup plus drôle, Babette s'en va en guerre, de Christian Jacques, film dans lequel Brigitte Bardot, eh bien, mit à la mode le Vichy à carreaux. Mais oui, il y eut une époque où le Vichy à carreaux, je ne parle pas du régime politique, où le Vichy à carreaux était à la mode. Vous savez, avec des petits nœuds dans les cheveux, c'était charmant, dans les cheveux de Brigitte Bardot. Bien sûr, dans les miens, c'est moins sûr. Et puis, on la vit aussi dans des affaires plus sérieuses. On va d'ailleurs écouter un extrait d'une de ces affaires plus sérieuses. Dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot en 1960, qui fut pour elle un cauchemar, parce que Clouzot était un homme des plus exigeants et Brigitte Bardot, certainement pas une femme des plus faciles. On la vit dans Vie privée de Louis Malle en 1962 aux côtés de Marcello Mastroianni, où elle jouait quasiment son propre rôle, que c'en était pathétique, c'est-à-dire eh bien, celui d'une actrice prisonnière de son personnage et qui était parfois lassée de, je dirais, de toute l'excitation qui suivait les moindres faits et gestes de son existence. Et c'est sans doute cette idée de diversifier ses rôles qui l'amena en 1963, une rencontre des plus improbables. Il est vrai que l'homme à l'époque était jeune, ce n'était pas le Jean-Luc Godard, c'est de lui qu'il s'agit, qu'on a pu connaître dans les années 70 et 80, mais il avait déjà quelques films derrière lui, notamment À bout de souffle et peut-être Pierrot le fou, si je me souviens bien, pardonnez-moi. En tout cas, eh bien, c'est à Brigitte Bardot qu'il confia le rôle féminin principal du Mépris, adapté du roman d'Alberto Moravia et qui racontait le tournage par Fritz Lang lui-même d'un film adapté de l'Odyssée. Aux côtés de Brigitte Bardot, on retrouvait Jack Palance et Michel Piccoli. Michel Piccoli, Brigitte Bardot, qu'on n'a pas oublié dans une scène fameuse pré-générique, après laquelle on commençait à écouter la musique. D'ailleurs, on commencera à écouter la musique dès que j'aurai fini de parler. Alors, je vais faire à la fois Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Oui, je vais faire à la fois Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Tu aimes mes yeux? Oui. Tu aimes ma bouche? Oui. Tu aimes mes seins? Oui. Tu aimes mes fesses? Oui. Alors tu m'aimes? Oui. Je suppose que vous la connaissiez déjà, c'est certainement l'une des musiques de films les plus célèbres du monde. Elle est bien évidemment signée de Georges Delerue et c'est l'air de Camille dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Un film avec, de 1963 avec dans l'un des rôles principaux Brigitte Bardot qui considérait Jean-Luc Godard, je cite, comme un genre d'intello cradingue et gauchisant, mais ma foi, les deux collaborèrent plutôt bien et le film fait partie de ces grands films malades, comme on les adore. Et Brigitte Bardot y gagna une sorte de vernis intellectuel, un petit vernis, puisque les rôles qu'elle fit par la suite eh bien, ne furent pas forcément à l'aune de ce très très grand film, il faut le reconnaître, et puisque elle enchaîna, juste pour le dire, sur Une ravissante idiote tournée en 1964, Édouard Molinaro. En 1965, il y eut le Viva Maria de Louis Malle, très très gros succès commercial avec Jeanne Moreau. Il faut dire que le film était plutôt drôle avec un duo de choc, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, ça valait le déplacement. Et puis, pour écouter plus de musique et moins de paroles, on va écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1971, l'un des derniers films de Brigitte Bardot. Une musique signée du regretté François de Roubaix, un film de Robert Enrico, une grosse production intitulée Boulevard du Rhum avec Brigitte Bardot dans le rôle principal et à ses côtés Lino Ventura, on se souviendra d'ailleurs que dans ce film il y avait une scène fameuse de duel à l'alcool. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on écoute un extrait de cette bande originale, François de Roubaix et Brigitte Bardot si l'on veut, Boulevard du Rhum 1971. Voilà, un court extrait de la bande originale de Boulevard du Rhum, un film de Robert Enrico, une musique signée de François de Roubaix. Et je ne saurais nous quitter. Alors après, Brigitte tourna encore quelques films, mais la petite histoire retient que son dernier film tourné en 1973, c'était l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, certainement l'un des plus longs titres de toute l'histoire du cinéma français. Ma foi, c'était une pochade plutôt bienvenue, après laquelle eh bien, Brigitte décida d'elle-même, et ce fut quand même courageux, de quitter le cinéma pour d'autres destins que nous n'évoquerons pas. On va quand même pas se quitter sans écouter Bébé, donc on l'écoute, et je vous dis au revoir tout de suite. Au revoir à vous.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.